CKRL. Québec.
Aujourd'hui au Grain de sable, les dangers de l'austérité budgétaire et une fenêtre sur les Indiens d'Amérique.
Le Grain de sable d'Attaque Québec.
Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui vous accompagne pour la prochaine heure pour une nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec en ce magnifique 10 mars où les rayons du soleil du printemps se montrent le bout du nez. On aime bien. Je ne sais pas vous, mais on aime bien. Il faut faire par contre attention au trottoir car il y en a encore de vraiment glacés. Alors je vous rappelle que le Grain de sable est un magazine d'actualité socio-économique et qu'on connaît, qui est réalisé par les membres d'Attaque Québec. On y reçoit des gens engagés et également on y écoute de la musique engagée. Comme je vous le mentionnais, nous allons nous entretenir sur les dangers de l'austérité budgétaire avec l'économiste Pierre Boulle en première partie d'émission. Nous aurons ensuite l'éditorial hebdomadaire de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, puis ce sera la chronique de Renaud Blais sur une fenêtre sur les Indiens des Amériques. Mais d'abord, on écoute Joe Mack avec l'International.
La primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial.
Thank you.
Voilà, c'était l'International dans une version reggae par Joe Mac. Alors aujourd'hui, nous parlons des dangers de l'austérité budgétaire avec M. Pierre Beaune. Alors bonjour M. Beaune.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Oui, alors en guise de présentation, vous êtes économiste à la Centrale des syndicats du Québec.
Oui.
Et vous faites également partie des collaborateurs et également de l'Institut de recherche socio-économique l'IRIS. Et un petit peu plus tôt, vous me disiez également que vous faites partie du comité scientifique de l'IRIS.
C'est ça.
C'est bien ça. Alors, on a pu lire votre plume. Donc, vous avez écrit récemment un billet sur le blog de l'IRIS qui mettait en garde contre l'austérité budgétaire. Évidemment, l'austérité budgétaire qui est prônée par plusieurs gouvernements. Donc, pas seulement ici, mais aussi ailleurs dans le monde. Alors, premièrement, pouvez-vous nous donner un peu des exemples des mesures d'austérité et, dans le fond, quels sont les impacts négatifs?
Bien, les politiques d'austérité, il faut comprendre que ça vise à réduire les déficits des gouvernements, puis de cette façon-là, pense-t-on aussi réduire ou limiter l'augmentation de la dette publique. Alors, ça consiste à couper dans les dépenses, d'une part, et puis à augmenter les prélèvements fiscaux, d'autre part. Alors, comme exemple de politique de ce genre-là, on va avoir des baisses de salaire qui vont être appliquées aux employés du secteur public. On a vu aussi dans certains pays la suppression des avancements d'échelon pour l'ancienneté. On a aussi des réductions d'effectifs de la fonction publique. On va avoir aussi recours à des privatisations des services, par exemple les autobus, les transports en commun, les aéroports, le gaz, l'eau, les loteries, ces choses-là. On va aussi s'attaquer aux protections sociales, particulièrement les retraites. On relève l'âge de la retraite. On coupe aussi, dans certains cas, les prestations pour la retraite, mais aussi d'autres allocations, les allocations de chômage, l'allocation familiale, d'autres protections sociales. Du côté des dépenses, c'est le genre de choses qu'on va faire. Du côté des revenus, ben, on va augmenter surtout les taxes à la consommation, la TVA, par exemple, au Portugal, si on l'a monté à 23 %, on va avoir des taxes plus spécifiques aussi qui vont s'appliquer sur toutes sortes de produits de consommation. C'est le genre de mesures qu'on applique dans les politiques d'austérité.
Donc, c'est ce que vous parlez, dans le fond, pour les mesures d'austérité.
Oui.
Alors, c'est quoi l'impact négatif?
Bien, le problème de ces politiques-là, c'est que elles surviennent dans un contexte où les économies sont pas très dynamiques, sont plutôt stagnantes, en particulier en Europe, dans les pays qui sont les plus qui ont des problèmes d'endettement considérable. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles retirent des éléments économiques du circuit de telle sorte que au lieu d'améliorer la situation des gouvernements, elles provoquent un ralentissement de l'économie. Et de ce fait-là, ben, les ratios d'endettement ne s'améliorent pas, parce que même si la dette se réduit un peu, le rapport à l'économie, si l'économie diminue, ben, le ratio va augmenter. Et donc, ça appelle des nouvelles rondes de mesures d'austérité, et ainsi de suite, jusqu'à temps que le pays aboutisse à la ruine complète, comme c'est arrivé en Grèce ces derniers temps.
Donc, il y a plus d'endettement au niveau de la population?
Ben, ça mène un pays à la ruine. Et puis, si tout le monde applique ces politiques d'austérité-là, puis c'est ce qu'on voit en Europe en ce moment, à peu près tous les gouvernements pratiquent ces politiques-là, bien, ce que ça fait, c'est que ça provoque un ralentissement, une récession. L'Europe entière, en ce moment, est en train de tomber en récession. Ça a des impacts sur les pays émergents qui ne sont pas capables de vendre leurs produits, comme la Chine qui est en train de ralentir aussi, les États-Unis qui n'arrivent pas à redécoller. Bref, on est engagé dans une spirale descendante à l'échelle internationale à cause de ces politiques d'austérité-là. C'est ça qui se passe en ce moment à l'échelle du globe.
Je ne sais pas vous, mais je ne sais pas également ceux qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui pensent que les politiques d'austérité budgétaire, ça peut être favorable. En tout cas, quand on parle avec les gens, des fois, on dit, ben là, finalement, faut serrer la ceinture. Alors, que répondent à ceux qui soutiennent que les gouvernements dépensent trop et qu'ils devraient à la fois couper dans ces dépenses et diminuer les impôts pour laisser plus d'argent dans les poches des consommateurs? Est-ce que c'est vraiment ça la solution?
Bien, c'est des questions de choix collectifs qu'on fait. Nous, par exemple, au Québec, on considère que si on met en commun le financement de nos services, de certains services qui peuvent être livrés par l'entreprise privée, il n'y a aucun doute, mais si on met le financement de ces services-là en commun, ça va coûter moins cher puis ça va assurer une meilleure équité dans la livraison des services. Par exemple, si on prend l'assurance automobile pour les dommages corporels, ça coûte moins cher puis on a un meilleur service que ce qu'il y a dans les autres provinces canadiennes. On a le même principe.
Ah oui?
Oui, absolument. On est la seule province au Québec qui a une assurance automobile collective pour les dommages corporels. Ailleurs, ça coûte extrêmement cher. Le même principe s'applique aussi pour l'assurance médicaments. Il y a plein d'autres services publics qui sont comme ça, mais il y a une étude de l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, qui a été publiée la semaine dernière, qui porte justement sur la valeur des services publics et qui a vraiment chiffré l'effet de baisse d'impôts, celles qu'on a eues au Québec. Il y en a eu certaines depuis une dizaine d'années. L'effet de ça, c'est que ceux qui vont profiter davantage des baisses d'impôts, ben c'est les ménages les plus fortunés. C'est normal, c'est eux qui en payent de plus. Mais en même temps, ben, si on baisse les impôts, on va réduire les services, mettons, dans la même proportion, si on veut maintenir l'équilibre budgétaire. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les services ont un effet redistributif. Là. C'est ceux qui vont perdre au change, c'est les ménages les moins fortunés, là, ceux qui sont dans les 40 % les moins fortunés de la population, qui vont se trouver à perdre des services qui ont l'équivalent de revenus parce qu'ils ont plus de transferts sociaux, qui bénéficient aussi davantage des services de santé, services d'éducation qui sont gratuits, etc. Donc, il faut voir que si le gouvernement réduit les impôts, il réduit les services en proportion, il va y avoir des effets redistributifs négatifs importants. Ça, c'est une dimension à considérer attentivement quand on évoque ça, là.
Oui, tout à fait. Mais c'est très, très, très intéressant votre point de vue. Je voulais vous amener sur un autre terrain. Dans le fond, vous écrivez dans votre billet « Le gouvernement conservateur du Royaume-Uni s'offre plutôt comme la vitrine de l'austérité expansionniste. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire au juste et est-ce que c'est contradictoire?
Ben oui, la plupart des gouvernements en Europe, en tout cas, s'ils vont du côté de l'austérité budgétaire, généralement, c'est parce qu'ils sont contraints à le faire par les marchés financiers qui exigent ce genre de redressement-là pour continuer à leur prêter à des taux raisonnables. Mais en Angleterre, c'est le gouvernement conservateur qui est là, lui, il a plutôt tendance à être fier de sa politique d'austérité budgétaire, qui est une des plus rigoureuses qu'il y a en Europe. Les analystes, les observateurs ont appelé ça, ont intitulé ça l'austérité expansionniste, comme lui ont donné ce nom-là, comme nom. L'idée qu'ils ont, c'est de dire, bon, l'austérité, c'est sûr que ça va faire mal, c'est sûr que ça va créer des dommages, ça va produire des dégâts économiques, mais en même temps, ça va rétablir la confiance. Et puis, une fois la confiance rétablie, ben là, les ménages vont se remettre à dépenser, à consommer, puis les investisseurs vont investir davantage, et puis la roue de l'économie va recommencer à tourner. Donc, on fait intervenir la psychologie comme recette économique. C'est sûr qu'il y a une dimension psychologique, là, si vous voulez, dans les marchés boursiers, aussi dans l'attitude, là, il y a toujours l'indice de confiance des ménages. Là, c'est des choses qui existent, ça, mais concrètement, ben, ce que ça fait, c'est ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire que l'économie du Royaume-Uni actuellement a fini l'année avec un recul, est en train de reculer, ben, parce que y a des politiques d'austérité qui ont effectivement ces effets-là. Alors, avant que le redressement se manifeste, c'est pas du tout évident que ça va se produire. Mais c'est la théorie qui est derrière quand même ce comportement-là.
Alors, c'est vraiment comme appliqué de façon vraiment plus rigoureuse, comme vous le dites, en tout cas plus extrême, entre guillemets, peut-être j'oserais dire ça. Et ces fameuses politiques d'austérité budgétaire, bien, sont menées, on peut le voir, autant par des gouvernements de droite autant que de gauche. Alors, j'ai envie de vous demander quel est le lien entre l'austérité budgétaire et la doctrine néolibérale.
Les gouvernements de gauche, des fois, ils sont à faire ça, ils n'ont pas le choix. Tu sais, c'est un comportement, je dirais, ponctuel pour faire face à une situation donnée, tandis que les gouvernements de droite puis les courants néolibéraux, c'est leur philosophie de base. Moins d'État, les forces du marché règlent tous les problèmes, sauf exception. Donc, le moins d'État possible, c'est la doctrine qui est défendue. Alors, l'austérité budgétaire, c'est une espèce de caractéristique permanente pour les gouvernements de droite. C'est ce qu'ils cherchent à faire d'une manière systématique, c'est-à-dire réduire le poids ou la taille de l'État dans l'économie.
Pour laisser...
C'est un peu la différence entre les deux.
Donc, il y a une différence. Il faut faire la différence.
Bien, on peut la faire, mais ça a le même effet que ça soit de droite ou de gauche, oui.
Mais de gauche, ça semble être plus ponctuel, comme vous me le dites.
Ben, c'est parce que des fois, ils n'ont pas le choix.
Mm-hmm. Une dernière question. On a encore le temps, rapidement. Donc, il y a trait à l'actualité ici. Québec et Ottawa sont à la veille de nous présenter leur budget. Mm-hmm. Alors, si vous étiez ministre des Finances, que feriez-vous?
dans le cas du Québec, je vais parler du Québec. Je pense qu'il faut... il est impératif que le gouvernement desserre l'étau, si je peux dire... Le prochain budget, ça va être dans son plan de retour à l'équilibre budgétaire là, qui veut atteindre l'année prochaine, en 2013. Cette année, c'est extrêmement contraignant ce qu'il prévoit appliquer comme contrainte sur les dépenses. Les dépenses au total augmenteraient de 1,6% seulement, ce qui est comparé à avant. Avant la récession au Québec, on augmentait à peu près autour de 4% par année, puis c'est le plus bas taux de croissance des dépenses parmi les provinces canadiennes. Alors, 1,6%, c'est un étranglement net des services publics qui est annoncé avec ça. Alors, ce serait important que le gouvernement desserre un peu cet objectif-là. En deuxième lieu, je dirais qu'il faut absolument qu'il révise ce qu'on appelle la taxe santé, la contribution de 200 $. C'est une mesure qui est parfaitement inéquitable. Il faudrait que ce soit aboli puis remplacé par quelque chose de plus progressif comme moyen de financement, parce que ça génère quand même près d'un milliard ça, comme revenu. Mais c'est tout le monde doit contribuer 200 $ quel que soit son revenu. Ce serait extrêmement important que ce soit révisé comme orientation. Je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait des efforts de fait en éducation, en particulier pour la formation professionnelle, pour permettre la formation à temps partiel. Actuellement, on exige que ce soit quasiment à temps plein pour un étudiant de fréquenter les écoles en formation professionnelle pour avoir un diplôme d'études professionnelles. Ça, il faudrait que ce soit assoupli, que la formation continue au cégep également soit également plus... mieux financé, parce que dans les années 90, on avait à peu près 80 000 personnes qui fréquentaient les cégeps pour la formation continue des adultes, mais on est tombé à 27 000 présentement. Alors, il y a un gros problème, surtout si on parle de l'économie du savoir là, pour l'avenir. Il faudrait également ajouter des places en garderie, selon moi.
Donc, ne pas couper dans les dépenses?
Ben il faut... dans les dépenses, il faudrait certainement permettre aux dépenses d'augmenter d'une manière raisonnable plutôt que de couper d'une manière sauvage comme le gouvernement mm-hmm. se propose de le faire dans son prochain budget. Puis il faut aussi investir, il faut, 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 gouvernement envoie des signaux qu'on veut prendre un virage vert pour l'économie en investissement, par exemple, dans l'électrification des transports collectifs ou en prenant le contrôle de l'éolien, parce que actuellement c'est confié au secteur privé. Ça devrait être le secteur public, à mon avis, qui devrait être, comme pour la production d'électricité.
Alors, je comprends bien. Ne pas couper dans les dépenses publiques trop. En garder quand même, du moins.
Bien, c'est ça. Cesser de couper dans les dépenses publiques, quitte à reporter l'atteinte de l'équilibre budgétaire d'un an ou de deux ans. Mm-hmm. Il faut desserrer un peu la camisole de force qui est appliquée au service public, à l'éducation et à la santé, au financement de l'éducation et de la santé présentement. Parce que ça va être ingérable, ça va faire des dommages. On a déjà vu ça dans la fin des années 90, le genre de lésions que se provoquaient les coupures qui ont été appliquées de manière sauvage là, dans la santé en particulier. On en subit encore les conséquences.
Eh bien, merci beaucoup, M. Bourne.
Bien, je vous en prie.
Alors, je au plaisir de vous accorder une autre entrevue sous peu, peut-être après le budget.
Oui, très bien.
Je vous rappelle que Pierre Bourne était économiste à la Centrale des syndicats du Québec et collaborateur à l'Institut de recherche socio-économique LIRIS. Avant de poursuivre avec l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Ata Québec, on écoute Zao et Tounia Siano, citoyens du monde. À tout de suite.
Je les ai pas choisis. N'essayez pas de me changer. Prenez-moi comme je suis. Si la souffrance de mon cœur nous séparait, unis, allons les amis pour les enfants de Tunisie.
Je suis enfant de la terre, fils de tout pays. Moi, si fier de qui je suis.
Je suis
un adolescent entré.
Moi,
un volcan à Pompéi. Je suis une épidémie, un parfum de défaite. Je suis fruit des colonies, l'esclavage aboli. Dans mon être, j'ai pris l'histoire et récits, décrit les facettes d'un pays en fait. Je vis dans cette harmonie, passe des larmes mourir pour les gens honnêtes.
Rally, Wikipédia, notre culture la Iralia, pays maintenant toujours Elia, Asma qui fait Rania.
Mes origines et couleurs, je les ai pas choisies. N'essayez pas de me changer, prenez-moi comme je suis. Si la souffrance de mon cœur nous.
Voilà, c'était un extrait de Citoyens du monde par Zao et Tounia Siano. Je rappelle que nous allons ajouter ces pièces musicales et les autres ayant joué aujourd'hui sur notre blog à l'adresse legraindesableqc.org un peu plus tard aujourd'hui. Je me tourne maintenant vers Michèle Monette, qui, je le rappelle, est notre réalisatrice. Bonjour Michèle.
Bonjour.
Vous avez reçu pour nous l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Ata Québec.
Oui, Valérie, comme chaque semaine et cette semaine, il va porter sur la lutte à l'évasion fiscale à la suite d'un communiqué mis plus tôt dans la semaine. On l'écoute.
Dans son bilan de l'année, Revenu Québec s'est montré très satisfait de sa lutte contre l'évasion fiscale. On aurait réussi à récupérer 3 milliards de dollars et on prévoit ajouter 300 millions de plus pour les deux prochaines années. Bien sûr, il faut s'en féliciter. Il est normal que tous paient leur juste part d'impôts. Question, élémentaire d'équité. Cependant, on peut se demander si c'est suffisant ou si Revenu Québec prend bien la peine de cibler ce qui est le plus important. Le groupe Échec aux paradis fiscaux, dont fait partie Attac Québec, a émis cette semaine un communiqué dont le titre exprime bien la situation. Revenu Québec s'attaque aux petits poissons, mais laisse filer les gros requins. Qui sont les petits poissons? Ceux qui font du travail au noir, dans le domaine, par exemple, comme la construction, dans la restauration, les coiffeurs qui travaillent à la maison, les pigistes, etc. Qui sont les gros requins? Eh bien, c'est ceux qui font des fuites fiscales à haute échelle, qui profitent à plein des paradis fiscaux, des compagnies qui enregistrent des profits dans les paradis fiscaux, les investisseurs qui profitent de l'accord prétendument contre la double imposition avec la Barbade, tous ceux qui cachent des montants faramineux à l'impôt de façon illégale, mais aussi de façon légale par toutes sortes de manœuvres et d'entourloupettes que nos gouvernements permettent. Alors tout ça, bien sûr, ça concerne des gens très riches. Et qu'est-ce que fait Revenu Canada pour ça? Eh bien, tout simplement rien. Bien qu'on annonce une vague intention de s'attaquer aux, je cite, planifications fiscales abusives, ben, ça ne se manifeste pas par des mesures concrètes. Et d'ailleurs, ce sera démontré dans une étude d'Alain Deneau qui va paraître bientôt, une étude qu'il a réalisée pour le SISP. Peut-être qu'à l'émission ici, on pourra entendre des choses à ce sujet. Lors du premier mandat du gouvernement Charest en 2003, le ministre des Finances de l'époque, Yves Séguin, avait manifesté quant à lui l'intention de s'attaquer justement aux fuites fiscales. Il s'est confié de cette expérience assez douloureuse pour lui en 2006 à l'émission Freak Show. Alors, il raconte « J'ai eu en 48 heures une espèce de mouvement vers moi, un souffle chaud à me faire perdre mes cheveux tellement c'était cuisant. » Alors, la pression est venue des milieux d'affaires et politiques paniqués. On lui affirmait, entre autres, tenez-vous bien, que l'évasion fiscale était un mythe. L'évasion fiscale, un mythe. Cette histoire nous montre bien la grande nécessité de s'attaquer vraiment aux fuites fiscales et, malheureusement, tout le chemin qu'on a à parcourir. D'où l'importance de faire pression sur nos gouvernements pour qu'ils s'attaquent pas seulement aux petits, mais à tous ceux qui nous affaiblissent vraiment et qui ne sont même pas importunés.
Alors, encore une fois, un éditorial très percutant et la fuite fiscale n'est pas un mythe.
Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a une journée d'études de paradis fiscaux, une injustice fiscale organisée par Attac Québec le 31 mars à Montréal. Les inscriptions sont ouvertes, il y a toujours de la place. Le programme est en ligne sur le site d'Attac Québec. Alors, j'invite les gens à s'y inscrire.
À ne pas manquer, ça sera fort intéressant. Merci Michel. Au retour, ce sera la chronique de Renaud Blais. À tout de suite.
Le Radiothon de CKRL arrive à grands pas. Et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par la boîte à pain Café Napoli. La boîte à pain Café Napoli vous propose 40 variétés de pain, un choix de pizza cuite sur feu de bois et nos fameux sandwichs pour tous les goûts. Le classique jambon et fromage suisse, le nouveau capicolo et salami génois et plusieurs autres. La boîte à pain Café Napoli, c'est également des salades tendance italienne, des viennoiseries et maintenant nos nouveaux choux à la crème. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue à Limoilou et le 289 rue Saint-Joseph-Est. Notez que du 19 au 22 mars, notre succursale de Limoilou se refait une beauté et sera fermée pour sa rénovation. Visitez notre site boiteapain.com.
Depuis 1973, CKRL demeure un leader dans la découverte et la promotion de la relève artistique. Achetez votre carte de membre au coût de 25 $ ou faites un don pré-radioton de 10 $ ou plus avant le 30 mars et courez la chance de gagner un des deux prix suivants. 150 $ à la boutique Le Pédalier. 150 $ chez Sillon le disquaire. Adhérez en téléphonant au 418-640-2575 ou en ligne à sillon.com. Parce que votre soutien au 89.1 est essentiel.
Illusion auditive, une émission sur le rock de tout genre. Animée par Vincent Deville et Jacques Dulac, vous êtes conviés à une heure de musique des années 70 à aujourd'hui. Psychédélique, garage, hard rock, progressif, classique reconnu, un rendez-vous pour les passionnés du rock. Illusion auditive, tous les samedis soirs de 21h à 22h au 89.1.
CKRL 89.
Vous écoutez présentement Le Grain de Sable sur CKRL 89.1. C'est maintenant l'heure de la chronique Quelques fenêtres sur les Indiens des Amériques avec Renaud Blais. Alors, bonjour Renaud.
Bonjour tout le monde.
Ça va bien?
Très, très bien.
Alors, je rappelle, Renaud Blais est un militant altermondialiste depuis plus de 10 ans et reconnu en 2011 comme Indien Huron-Wendat à part entière. Bref, tu es métisse et fier de l'être.
Tout à fait.
Certains de ses ancêtres d'origine asiatique depuis plus de quelques 10 000 ans en Amérique sont ceux qui ont accueilli, rendu possible et facilité énormément la vie des commerçants et des missionnaires, il faut le rappeler, venus d'Europe au temps de la Nouvelle-France. Alors, voilà mon entrée en matière pour toi.
Très, très bien. Merci beaucoup.
Alors, je te laisse expliquer brièvement ce qui te motive à faire cette chronique que nous attendons chaque fois avec beaucoup de plaisir.
Merci, merci. Alors, moi, je trouve toujours que c'est altermondialiste de restituer la place prépondérante des Indiens en Amérique, surtout au cours de l'histoire ancienne et récente, particulièrement en Amérique du Nord, justement. Depuis les années, je fais des recherches personnelles sur le sujet comme historien amateur averti. Cette semaine, je vous présente une entrevue que j'ai eue très intéressante avec le grand chef de la nation Huron-Wendat, Conrad H. Siwi. Monsieur Siwi m'a donné une entrevue, donc je suis très fier de vous présenter les principaux extraits. Chers auditeurs, soyez indulgents, j'ai fait un montage très serré, qui n'est pas parfait, surtout parce que je voulais vous en livrer le plus possible. Très rapidement, M. Siwi a complété un doctorat à l'Université Laval. Il est grand chef depuis octobre 2008. Avant d'être élu grand chef, il a été analyste senior et conseiller spécial à la Commission royale sur les peuples autochtones, et aussi fondateur et président de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Et il fut directeur général, conseiller principal et chef négociateur des Innus de Ouachat-Mac-Maniotenam durant 5 ans. Alors, voici mon premier extrait d'entrevue.
On l'écoute.
En 1650, la nation Huron, de même que quelques autres individus qui pouvaient appartenir à la nation des Etchemins, Abénaki, entre autres, peut-être Montagnat aussi.
Donc, il y avait plus que les Hurons qui se sont fait donner la fameuse seigneurie des Jésuites?
Les sauvages chrétiens. Mais ces sauvages chrétiens-là devaient... Il y avait une condition, c'est que ces sauvages chrétiens-là devaient demeurer.
La sédentarisation.
Devaient demeurer. Alors, quelques années après, on s'est aperçu que, ce qu'on a appelé les Indiens errants, Wandering Indians, les Montagnais sont tout simplement retournés chez eux. Ils venaient à Québec quand même, aller-retour, pour faire un peu de traite.
Ouais.
Les Abénakis sont retournés et les Malécites sont retournés aussi. Alors, les Hurons-Wendat, comme ça devait s'écrire, puis comme ça s'était toujours écrit, étaient à Québec, à Stadacone, depuis des temps immémoriaux, depuis Donnacona, lorsqu'il a rencontré
Cartier.
Et toutes les villes qu'on appelle des Iroquois du Saint-Laurent, Wendat, Huron, ces villes-là témoignaient de la présence des Hurons tout au long du Saint-Laurent, bien entendu. Pas de peuple indigène dans le monde qui ne s'installe pas sur le long d'un boulevard. Ce boulevard-là, on appelle ça une rivière. Puis la rivière, c'est Mississippi, Chisasibi, Mestachipi, Mistachipo, Onamanchipi, c'est toute rivière. Alors, la rivière des Hurons, c'est le Saint-Laurent. Mm-hmm. C'est notre rivière. C'est la grande rivière. Alors, en 1650, on se voit concéder la seigneurie de Sillery sous le régime français. Et les Jésuites sont nos tuteurs. Et c'est passé quelque chose qui s'est passé un peu partout au Canada, c'est-à-dire que les Jésuites ont transféré les titres de la seigneurie à la couronne française, plutôt qu'à la nation Huron-Wendat. Seule héritière, seul dépositaire de la seigneurie de Sillery. Alors, c'est pour ça qu'on s'aperçoit que jusqu'à aujourd'hui, on se bat encore pour les titres de la seigneurie de Sillery et pour que justice soit rendue. On a 27 pétitions du grand chef Sastaretti en 1650, en passant par le grand chef Nicolas Vincent, jusqu'à nous autres. On a la même lignée, la même pensée, c'est-à-dire que la seigneurie de Sillery appartient aux Hurons-Wendat. Dans la seigneurie de Sillery, on s'est rendu à quelques reprises rencontrer la couronne britannique. Michel Siwi, Stanislas Koska, André Romain, Nicolas Vincent, les quatre grands qu'ils appelaient à l'époque, ont fait des voyages en bateau, rencontrer le roi d'Angleterre, la couronne britannique, pour que justice soit rendue. Et c'est dans cet esprit-là qu'on s'est fait transférer deux lobins de terre, de réserve indienne, la réserve indienne des 40 arpents, qui se situe là où est Bel Air aujourd'hui, Bas-Saint-Michel, et la réserve de Roquemont. On sait que la réserve des 40 arpents, ça a été un litige qui a perduré longtemps, qui a fait l'objet d'une revendication particulière, territoriale particulière, et qui a été réglé sous le leadership du grand chef Wally Picard en 1999. Pour la somme de 12 millions de dollars, nous devions accepter qu'on éteignait nos droits pour toujours et à jamais sur 1265 arpents carrés. Ça a été divisif, ça n'a pas été unanime du tout, mais la majorité du grand mandat ont accepté le montant. Alors, si on voulait un jour se ragrandir, ragrandir Wendake, la petite réserve de Wendake, il fallait prendre absolument ces argents-là. C'était le deal. On n'avait pas le droit non plus d'avoir un échange de terre. C'est-à-dire, on a perdu 1265 arpents carrés. On va reprendre 1265 arpents carrés ailleurs, par exemple dans la vallée de la Jonquière.
OK.
On n'avait pas le choix entre l'œuf ou l'enveloppe. C'était l'enveloppe. Ça fait que 12 millions, est-ce que c'est suffisant? Bon, je le répète encore, il y aura toujours deux écoles de pensée. Mais la démocratie s'est exprimée et on a pris le 12 millions. Alors, pour agrandir Wendake, on s'est servi de ces argents-là.
Donc, ça dormait tant que vous n'aviez pas un projet.
Ça dormait là, aux affaires indiennes en plus. Là, il y a eu une petite erreur administrative qui a été faite. C'est qu'on aurait dû transférer ce 12 millions-là tout de suite dans nos coffres à nous. Peut-être pour certainement pour faire des meilleurs intérêts, en tout cas. Parce qu'on n'a pas récolté grand-chose. Mais on a laissé ça aux affaires indiennes. Sous mon leadership, voyant qu'on n'avait plus de terre, de réserve, que Wendake était occupé à 98%, il fallait qu'on prenne un risque, c'est-à-dire réveiller ces fantômes-là. Et faire un référendum, en même temps que l'élection partielle, et demander à la population, par voie de double majorité, si elle était d'accord à ce qu'on aille chercher ce 12 millions-là pour acheter des nouvelles terres.
Ouais.
Connexes et adjacentes à Wendake. Conditions des affaires indiennes. Il n'y avait à peu près plus rien à acheter, sauf des terres dans le bassin versant, qui ne valent strictement ou à peu près rien, parce que c'est des terres, il y avait ça des swamps, de vases et de quenouilles. On ne fera pas des grands développements dans ça.
Mm-hmm. Okay.
Alors, il fallait aller chercher des terres où le sol permettait la construction d'infrastructures, puis permettre quelque chose de bien. Là. Fait qu'il y avait quelques terres qui restaient là, au bord de la rue de la Colline. Et bien sûr, pendant ces années-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a gardé notre 12 millions. Le 12 millions, lui, n'a pas pris de valeur, mais les terres, elles, ont pris de la valeur. Les terres qu'on n'aurait pas achetées en 1999, lorsqu'on a réglé le dossier des 40 arpents, bien, ces terres-là, on aurait pu peut-être les avoir à moins d'un dollar du pied carré. Puis là, bien, il fallait payer, ça montait au-dessus de 3 dollars du pied carré à certains endroits.
Ouais, les propriétaires, vous voyez
bien, on dit, gars, les Hurons veulent des terres alors.
Mmh.
Et puis nous autres, on n'a pas beaucoup de choix. Puis d'ailleurs, M. Labeaume n'a pas beaucoup de choix non plus. Il n'y a pas grand monde qui a beaucoup de choix pour annexer des terres à la Ville de Québec ou ailleurs aussi. C'est une denrée rare. C'est devenu des terres qui ont une grande valeur. Mais au moins, avec ce petit montant-là, on était chercher 5 500 000 pieds carrés de terre.
Ça représente que, combien?
Bon, non, ça représente à peu près la moitié de la réserve actuelle.
OK. Donc, c'est un agrandissement de 50% à peu près.
Absolument. Ouais. Minimum. Bon. C'est ce qui amène bien fait. On fait ce qu'on a. Quand on arrive à Wendake, on arrive sur un territoire 91.
Mm-hmm.
91-24. Alors, les Indiens et les terres des Indiens sont de juridiction et de compétence exclusivement fédérales. On a acheté des terres dans le statut 92.
Parce qu'ils étaient dans Saint-Émile.
Parce qu'ils étaient dans Saint-Émile, dans la ville de Québec, peu importe. Mais il faut les transférer 91. On est dans le processus de transfert des terres dans 91-24.
OK. Donc, si tu n'as pas tout les acheter, là, il y a tout un processus juridique à suivre.
Ah, regarde, c'est...
Ouais, ouais, ouais.
Puis on est dedans, là.
C'est... Mais comment vous faites le lien entre la baie georgienne et Québec ici? Le territoire est occupé continuellement ou c'était juste comme...
Depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires.
À partir de Québec ici, tout long?
Ah, à partir de l'aspect. Mais ton grand-père, dans la Cana, il a accueilli Jean-Cartier.
Ouais, ouais, ouais.
Il s'est kidnappé, ton grand-père.
Oui, oui, c'est...
Puis ça n'a pas été une belle histoire.
Ça fait,
fait que c'est un Huron, ça.
OK.
Sur le Gaspé. Tout le long de la péninsule. Tout le long du fleuve. Les villes Huron, à Bic, à Charimouski, à Bécamo, d'un bord des deux côtés. Ici, à Québec, c'est à Laconie, bien sûr, un peu plus haut, à Deschambault, partout, tout le long du fleuve, on a des villes huronnes. On est au Grand Lac, Grand Lac Huron, Grand Lac Ontario et Grand Lac Erie. Il y a trois Grands Lacs. Et ceux qui vivent autour de ces Grands Lacs-là, c'est des Wombats, des habitants de l'île, des Hurons, des Pétuns, des Tirontatis, des Neutres, des Erie, des Susquehanna, des Andastes. Puis plus loin, un peu plus loin, vers le fleuve, des Haudenosaunee, des cinq nations, des six nations, des Iroquois, comme on l'appelle. Ils sont confédérés aussi. Ils ont été les derniers à être confédérés. Mais c'est tous des Iroquois. Et la plus vieille de ces familles-là, c'est les Hurons. On cultive du maïs, du tabac, 150 sortes de fèves, etc. On est confédérés, on est matrilinéaires, on est des civilisations hautement développées. Et on vit dans des longhouses. Des ganonchières. Et c'est certain qu'on va installer nos maîtres lieux là où c'est plus propice à l'agriculture. Mm-hmm. Alors, pour des Grands Lacs, c'est là. Le cœur de l'Amérique du Nord. Et aussitôt qu'on est prêt, que nos cultures sont prêtes, on met ça dans nos canaux de 60 pieds de long, 40 pieds de long, 30 pieds de long, 50 pieds de long, 12 rameurs, 15 rameurs, 8 rameurs. Puis on part sur les grandes étendues, les Grands Lacs. Puis après ça, on arrive sur notre rivière. Et notre rivière, c'est le fleuve Saint-Laurent. Mm-hmm. C'est notre rivière. On est gros. On est important. On est les plus nombreux. On est ceux qui traitons le plus. Selon ceux-là qui avons les alliances les plus loin aussi, chez les Montagnais, les Micmacs, les Cris, jusqu'au Mississippi, dans l'Ohio, partout. Puis on échange des biens de consommation. Puis les chasseurs-cueilleurs, les nomades, ont besoin de leur farine, de leur tabac, ont besoin de leur vivre que nous leur amenons. Puis en échange, on fait du troc. Alors, c'est certain qu'on vit, nos maîtres lieux sont en bas, c'est un grand lac, mais notre présence sur le fleuve Saint-Laurent, elle est millénaire et millénaire et millénaire.
Alors, vous venez d'entendre le grand chef Conrad H. Siwi de la nation Huron-Wendat, donc dans les premiers extraits de l'entrevue que Renaud Blais nous propose aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant, hein?
Vous avez compris à la fin qu'il y avait comme un retour en arrière où il parlait de l'époque avant qu'arrivent les Français, là, pour comment... C'était pas évident de faire le lien entre les deux, là, parce que j'avais... En tout cas, c'était pas prévu de diffuser comme ça. Bref, on était au 16e siècle, là, au moment où Donnacona a été kidnappé, au moment où les Hurons, leur territoire était presque le Québec entier avec une partie du sud de l'Ontario. Parce qu'eux autres, ils naviguaient sur le fleuve, comme ils disaient que c'était leur autoroute
ou leur boulevard. Oui.
Mais la partie où ils cultivaient, c'était la baie Georgienne autour des Grands Lacs, parce que, bon, il y avait le choix où s'installer. Il y avait toute l'Amérique du Nord ou presque. Fait qu'ils se sont installés dans l'endroit où c'était le plus propice de faire de l'agriculture. Puis ils s'étaient installés là, même s'ils faisaient le commerce jusqu'à Gaspé.
Alors, c'est incroyable. En tout cas, vous avez compris qu'on cause beaucoup de territoires, de communautés et d'histoires. Donc, on va aller écouter. Si tu permets, Renaud.
Ouais.
Michel Paiement avec Wendake. À tout de suite.
Thank you.
C'était Wandake par Michel Paiement. Vous écoutez Le Grain de Sable et on est en compagnie de Renaud Blais qui nous présente sa chronique Fenêtre sur les Indiens des Amériques. Et aujourd'hui, c'est le nul autre que le grand chef Conrad H. Siwi de la nation Huron-Wendat.
Bon, puis j'ai encore un dernier extrait qui va nous armer plus vers l'actualité là, sur la question de... Ben, je pourrais donner quelques mots en passant. Là. Par exemple, je ne sais pas si vous avez compris que quand il parle de 91 et 92, ce sont les deux articles de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui séparent les pouvoirs dévolus au gouvernement des provinces et au gouvernement fédéral. Fait que quand là, ils ont acheté des terres qui étaient dans la ville de Québec, c'était sous couvert de l'article 92 parce que, bon, les municipalités, c'est la création des provinces puis c'est strictement de juridiction provinciale. Mais là, quand ça tombe dans une réserve... qui est de juridiction fédérale, ils sont dans le processus là, de transfert, ils disent de 92 à 91, mais c'est en fait c'est du pouvoir des provinces au pouvoir du gouvernement fédéral, parce que c'est pas tout d'ajouter du terrain, de les acheter avec les titres et tout ça, mais il faut que ça passe de juridiction du provincial au fédéral. Comme un parc fédéral qui se crée dans une province, c'est un territoire qui devient, qui est exclu de la province, mais qui est
qui appartient
de juridiction fédérale.
Et alors, le prochain extrait?
Ben, le dernier extrait, là, c'est encore du montage amateur. Puis soyez indulgents, il y a des petits bruits de fond des fois. J'étais dans une grande salle à la bibliothèque, puis il y a quelqu'un qui venait se préparer pour faire suite à nous. Là, ça fait que c'est... Il y a des petits bruits de fond, mais bon, le contenu, je pense qu'il est très intéressant.
On l'écoute.
Alors, le territoire des Huron-Wendat, le Néo-Ontario, a été incorporé dans la revendication territoriale des montagnes. Mm-hmm. Voilà toute la...
C'est ça qui fait la différence avec le parc.
Alors, ils leur ont incorporé l'île d'Orléans, la ville de Québec, le parc, tout notre territoire ancestral, ils leur ont cédé. Par chance que ce n'est pas fait de façon finale, c'est une entente de principe qui n'a pas de fondement en droit.
OK.
Mais eux autres se comportent depuis ce temps-là, depuis qu'ils ont leur entente de principe, comme si c'était leur territoire.
Fait que c'est pour ça qu'il y a deux communautés qui bâtissent sur le même territoire, hein? Le parc.
Mais ça veut dire que les Huron-Wendat, eux autres, sont forts d'un traité, sont forts d'un territoire essentiellement Huron-Wendat. On est capable de prouver les origines millénaires de ce territoire-là, où il n'y a jamais personne, de façon absolue, exclusive. C'est un territoire vraiment Huron-Wendat. Mais la grande difficulté, c'est que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial n'avaient pas le droit, sans le consentement, sans le savoir, sans la connaissance du Huron-Wendat, de prendre le territoire du Huron puis de céder ça comme ça, de donner à ces gens-là, comme un cadeau de signature. Alors, on en est là présentement. Nous autres, on ne veut pas prendre rien aux autres, mais on ne veut certainement pas que les autres viennent se permettre de prendre un territoire Huron-Wendat, de vouloir, après ça, développer des thèses racistes, pas gentilles, pas fraternelles en tout cas, qui disent que des Hurons, c'est des immigrés, c'est des réfugiés, ça vient pas d'ici, ça vient d'Ontario, leur traité, ça n'est pas un, c'est un sauve-conduit. Puis prendre toutes les vieilles thèses québécoises, un peu racistes ou discriminatoires, puis les faire siennes. Puis quand tu mets ça dans la bouche d'un Denis Ross, ou d'un Clifford Moore, ça donne pas un résultat trop beau pour un chef qui s'en vient parler de ses frères Hurons comme ça.
OK.
Il y a des vieux chez nous qui disaient que le secret de la paix mondiale, là, c'est chacun chez eux. Puis je dis pas si les montagnais n'avaient pas de territoire ancestral. Il y en a. Dans nous autres, il y a 25 000 km². Eux autres, présentement, revendiquent au-dessus de 350 000 km² pour trois communautés. Les autres, on n'est pas une communauté, on est une nation, avec un petit territoire ancestral qu'on veut protéger. Ça reste au bon sens. On a accepté de la médiation. On a accepté des tables, de mettre en place des tables centrales, de discussion, etc. Mais comme comme on dit, it takes two to tango. Alors, il faut que de l'autre côté soit d'accord aussi à s'inscrire dans une démarche. Pas où on va faire comme Salomon, trancher le bébé en deux. Mm-hmm. Parce que notre territoire n'est pas ni à vendre.
Ni négociable.
Non, la partie exclusive, elle n'est pas à vendre ni à négocier. la partie exclusive, c'est l'héritage de nos ancêtres. On en a toujours pris soin. C'est un territoire aussi qui est grevé de tierces parties québécoises, de villes, de villages, de MRC,
de barrages.
De barrages.
Puis dans les négociations, dans le cadre du plan Nord, est-ce qu'il y a une table qui négocie ou vous êtes parti?
Ben, nous autres, on a dit à M. Charron, on a dit dans le plan Nord, toi, on aimerait ça être capable de participer au plan Nord en collaboration avec certaines communautés. Et nous, de la Côte-Nord, de la Basse-Côte-Nord, ou Naskapi, ou Cree. Mais à partir de ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire l'entrepreneurship, nos entreprises, on a beaucoup à donner et à partager, puis dans ce sens-là, ben,
un peu comme les Cree qui veulent être entrepreneurs pour la conduite de la route, là.
Le premier ministre nous a ouvert les portes, toutes grandes ouvertes, puis on va participer à ça. On a mis des conditions, c'est certain que la question de l'environnement, développement durable, protéger la nature, protéger des aires de repos, des habitats fauniques pour les animaux.
Mm-hmm.
Mais à travers tout ça, une fois que c'est confirmé, ben là, après ça, on peut s'inscrire dans un développement durable.
Alors, mais merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment très intéressant cette entrevue avec le grand chef de la nation Huron-Wendat, Conrad Hachetier. Oui, merci Renaud.
Bon, ben, j'en profite pour le remercier aussi. Le chef s'est prêté très volontairement et très amicalement aussi à l'entrevue. Là. Alors, chers auditeurs, rendez-vous la prochaine fois pour un autre fenêtre sur les Indiens d'Amérique.
Merci Renaud. Encore une fois, une chronique fort intéressante. Nous en sommes maintenant aux événements à surveiller dans les jours qui viennent. Alors Michel, qu'avez-vous retenu pour nous?
Oui, Valérie, vous vous rappelez, nous avions reçu les gens d'Occupons. Bien cet après-midi, à l'Ostradamus, de 16h à 19h, c'est l'Assemblée d'Occupons Québec. C'est la rencontre bimensuelle des citoyens et des citoyennes de Québec s'indignant de la situation actuelle. Autre chose que je voudrais signaler rapidement, du 15 au 5 avril, c'est le printemps des revues et c'est organisé par la Société de développement des périodiques culturels québécois. Pourquoi je parle de printemps des revues? C'est parce que il y a une revue qu'on aime beaucoup ici qui est associée au printemps des revues, c'est la revue Relations. Et j'ai lu le dernier numéro qui s'intitule Souffrance. Je vais vous lire un court extrait juste pour mettre l'eau à la bouche. La laïcisation de la médecine fut longue et difficile en Occident parce que la médecine et la religion s'affrontaient sur le même terrain, à savoir leur rapport à la souffrance. Il y a la souffrance physique, la souffrance due à l'eau, par exemple, manque d'eau, la souffrance psychique. Il y a aussi toutes celles dues à l'idéologie managériale, déshumanisante. En fait, ce sont tous des aspects qui sont traités dans ce numéro. Et je vous invite à suivre le printemps des revues du 15 mars au 15 avril, au 5 avril, et encourager les revues culturelles québécoises.
Dont
la revue Relations. Voilà. Et ensuite, on a le temps pour une autre, le 12 mars et le 15 mars, jardinage écologique en milieu urbain. C'est une formation organisée par Crac Bitume. Pour en savoir plus, je vais mettre le lien sur notre site et vous indiquer comment faire suivre cette formation de 18h à 21h les deux jours.
Merci Michel. Alors c'est déjà l'heure de se dire à la prochaine. Juste avant, je vous rappelle que le Radio-Temps de CKRL, c'est un événement ne pas manquer qui se déroule les 30, 31 mars et 1er avril. Donnez généreusement et c'est le temps de renouveler votre carte de membre. J'aimerais remercier notre invité de la semaine, Pierre Beaune, économiste de la Centrale des syndicats du Québec et collaborateur de l'Institut de recherche socio-économique LIRIS. Je dis également un grand merci à toute l'équipe qui contribue à rendre possible cette émission. Renaud Blais aujourd'hui pour sa chronique qui nous fait découvrir le grand chef de la nation Huron-Wendat, Conrad Hachetier, Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec pour son éditorial, Michel Monette à la réalisation et aux communications et Fabien Dubuis à la mise en onde. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur legraindesableqc.org et nous réécouter. C'est déjà l'heure maintenant de l'émission Conte de fées avec Olivia Vu, et on se retrouve la semaine prochaine, samedi midi.
Le Radioton de CKRL arrive à grands pas et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par le Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 10